19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, aujourd'hui il y a Philippe et Aimé. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous accueillerons Louis de l'association À tout loisirs adaptés. Et puis nous parlerons de l'actualité, nous écouterons deux chroniques, celle de l'antenne jeune d'Amnesty Angers ainsi que celle de Céline. Et on finira par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, commençons par l'éditorial de Philippe. Tu vas nous parler des persécutions dont sont victimes les femmes afghanes.
2 ans et demi après le retour des talibans au pouvoir, nos chercheurs ont mené l'enquête. Et le bilan est sombre. Les talibans mènent une véritable guerre contre les femmes et les filles. Cette campagne de persécution est organisée, généralisée et systématique. Les femmes sont effacées de l'espace public et réduites au silence.
Tout d'abord, elles sont privées d'éducation.
Les filles sont exclues de l'école après le primaire dès l'âge de 12 ans. Leur retour prévu en classe le 23 mars 2022 a été de courte durée. Ce même jour, les talibans ont renvoyé les élèves chez elles, prétextant un problème technique lié à leurs uniformes. Le 20 décembre 2022, ils ont ordonné aux universités de ne pas inscrire de femmes dans leurs établissements.
Et ensuite, le droit des femmes pour travailler en Afghanistan est gravement réduit.
Les autorités ont imposé des mesures qui ont considérablement réduit leurs possibilités d'emploi. Elles sont écartées des rôles politiques et de la plupart des emplois de la fonction publique. Les décrets de décembre 22 et d'avril 23 visent à interdire aux femmes de travailler au sein d'organisations non gouvernementales et des Nations Unies. Ces mesures les privent de la possibilité de gagner un revenu pour elles-mêmes et leur famille. Elles les précarisent et les effacent de la société.
Et il y a pire.
Conséquence de cette crise économique et humanitaire, beaucoup en sont réduites à mendier, ce qui est également proscrit par le régime. Et le nombre de mariages d'enfants, de mariages précoces et de mariages forcés en Afghanistan est en forte hausse. Le terrible documentaire de Solven Chalvon-Fioriti, Afghan, que nous allons présenter mardi 26 mars à la MCL de Bocouzé, montre une jeune femme réduite à vendre, oui je dis bien vendre, 3 de ses enfants.
Les femmes ne peuvent plus se déplacer librement.
Un décret prévoit en effet qu'elles doivent rester chez elles et qu'elles ne quittent leur domicile qu'en cas de nécessité et seulement avec un mahram, un chaperon masculin pour les longs trajets. Les femmes qui ne respectent pas ces interdits sont arrêtées et généralement inculpées du crime de corruption morale.
Et les restrictions ne s'arrêtent pas là.
Elle concerne l'accès des femmes à tous les parcs publics, aux gymnases, aux bains publics, aux salons de beauté, aux cafés. On ordonne aux moniteurs d'auto-école de cesser de donner des leçons de conduite ou de délivrer des permis de conduire aux femmes.
Et un code vestimentaire strict leur est imposé.
Elles sont privées de leur liberté de choisir les vêtements qu'elles portent en public. Des instructions ont été progressivement officialisées sous la forme d'un code vestimentaire obligatoire. Des femmes ont été menacées et battues lorsqu'elles ne le respectaient pas.
Et les femmes qui résistent sont arrêtées, sont détenues et torturées.
Les femmes et les filles du pays ont répondu à la répression par une vague de manifestations pacifiques. En réaction, les talibans les ont harcelées et brutalisées. Coups de tuyaux, de fouets, d'armes, électrochocs, gaz lacrymogènes et autres produits chimiques. Une fois arrêtées, elles ont été soumises à des détentions arbitraires, des disparitions forcées et des actes de torture, parfois pendant des semaines.
Alors comment stopper cette infamie ?
À Amnesty International, nous disons que les États doivent accorder le statut de réfugié automatiquement à toutes les femmes et les filles afghanes en exil, sans besoin d'un examen individualisé de leur situation. La France doit faciliter le plus rapidement possible la délivrance des visas pour les femmes afghanes en exil, en particulier celles qui sont bloquées en Iran et au Pakistan, où leur sécurité n'est pas garantie. Ces persécutions sexistes, en raison de leur caractère systématique et généralisé, peuvent constituer un crime contre l'humanité en vertu de l'article 7 du statut de Rome auquel l'Afghanistan est un État parti. Ensemble, obligeons les talibans à rendre des comptes.
Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Louis de l'association À tout loisir adapté. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bienvenue. Bonsoir. Louis.
Pourrais-tu nous présenter ton asso?
Oui, tout à fait. Donc, on est une association basée au Pont-de-Cé, juste à côté d'Angers. Une association qui organise des séjours adaptés à destination d'adultes handicapés mentaux. On accueille des gens, surtout sur la période estivale, sur les mois de juillet et août, des adultes uniquement, qui sont des personnes donc en situation de handicap mental, soit des personnes qui sont nées en situation de handicap par des maladies génétiques, etc., ou alors des gens qui ont pu aussi devenir handicapés suite à des accidents de la route, accidents type AVC, etc. Et donc voilà, des personnes qui, nous on va accueillir des gens qui n'ont pas forcément besoin d'accueil médicalisé, mais donc des gens qui vont pouvoir se débrouiller dans les gestes du quotidien, mais qui, du fait de leur handicap, ne peuvent pas organiser leurs vacances eux-mêmes, c'est-à-dire aller louer un lieu, etc., prendre un véhicule pour se rendre sur leur lieu de vacances. Donc, ils vont faire appel à des organismes comme le nôtre.
Et pour mener ces actions, vous disposez de combien d'encadrants ?
Alors, pour la période estivale, on recrute une centaine de personnes pour encadrer les séjours. Nous, on tient vraiment à faire des petits groupes de séjour. Donc, globalement, dans la majorité, ça va être des groupes de 6 à 8 personnes encadrées par 2 animateurs. Ensuite, les lieux de séjour, l'avantage de faire des petits groupes, c'est que ça nous permet d'avoir des lieux de séjour qui sont des gîtes, donc des maisons où on va chercher, nous, quelque chose de chaleureux, puisqu'on accueille des gens qui peuvent être, pour certains, pour les plus autonomes, qui vont vivre seuls en appartement, mais une grande majorité des gens qu'on accueille sont des gens qui vivent en institution toute l'année. Donc dans des foyers, pour certains ça peut être en hôpital psychiatrique, voilà, dans les foyers il y a différents types de structures aussi, mais globalement c'est voilà des lieux où il y a beaucoup de monde, c'est de la collectivité, etc. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir leur proposer quelque chose de différent, donc en petits groupes, dans des lieux plus chaleureux, et surtout par ces petits groupes aussi faire en sorte que les gens puissent vraiment faire leurs propres vacances et vraiment être acteurs de leur séjour, donc de choisir leurs activités, de choisir ce qu'on va manger, etc.
Et pour le financement alors ?
Alors pour le financement, donc du coup nous, on est une association qui est en autofinancement, dans le sens où on vend les séjours qu'on propose, donc on a une petite brochure qui est disponible aussi sur notre site internet. On va être en partenariat avec un certain nombre d'établissements qui nous inscrivent des gens, et donc nos adultes, nos vacanciers vont payer eux-mêmes leurs vacances, financer eux-mêmes leurs vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des adultes en situation de handicap, beaucoup de gens vont toucher une aide. Il existe l'allocation adulte handicapé, la AAH. Après, on accueille un certain nombre de personnes qui sont travailleurs, donc qui vont travailler pour beaucoup en ESAT. C'est les établissements et services d'aide par le travail, qui sont des structures d'accueil à l'année dans lesquelles peuvent travailler des personnes en situation de handicap. Et ils vont être encadrés par des moniteurs d'atelier. Voilà. Donc, des gens qui vont bosser et qui, comme tout à chacun, comme vous, comme moi, vont mettre de l'argent de côté tous les mois, tantôt avec le de leur travail, tantôt avec leurs aides, pour payer leurs vacances. Donc voilà, pour les personnes en situation de handicap, il faut savoir que c'est ceux qui sont payés moins cher que la moyenne et qui vont payer leurs vacances plus cher que tout le monde, puisqu'il existe un surcoût lié au handicap des gens, puisqu'ils vont payer dans leurs vacances le salaire des encadrants, ils vont payer les véhicules, l'organisation globale des séjours, tout ça c'est un surcoût qui va se répercuter sur leur coût de vacances.
Quel est le profil que vous recherchez pour les animateurs ?
Alors pour les animateurs, en fait, on n'a pas de profil particulier. On embauche beaucoup de gens qui vont être souvent des jeunes étudiants, puisque c'est un travail saisonnier. Beaucoup qui vont être dans le secteur plutôt du médico-social, donc des étudiants qui vont être en école d'éducateurs spécialisés, infirmiers, infirmières. Ça peut être aussi des gens qui sont en psychologie, etc. Mais on accueille aussi des gens plus âgés, 30, 40, 50 ans. On a un animateur récurrent qui a 75 ans. Donc voilà, ça dépend aussi. En fait, on accueille des gens qui ont envie de faire du bien aux autres, qui vont être débrouillards, puisque il s'agit de s'organiser. C'est des séjours en autonomie, hein, puisqu'on fait à manger tous ensemble, on va organiser un peu les activités au fur et à mesure, etc. Donc voilà, c'est un peu le profil qu'on va rechercher, quoi.
Tout à l'heure, tu parlais de cette chose étonnante, enfin qui est même pas étonnante, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont un tout petit salaire et ils doivent payer leurs vacances plus cher. Donc là, on est en train de toucher la discrimination, hein, et les personnes handicapées subissent. totalement une discrimination dans le travail, mais dans plein d'autres situations, d'autres domaines.
Bah oui, bien sûr. Ouais. Et puis sur le secteur des vacances adaptées, par exemple, c'est quelque chose qui est très mis de côté, contrairement aux vacances pour les enfants ou les ados où il y a un certain nombre d'aides. C'est-à-dire que par exemple, la formation des encadrants, nous, on prend en charge la formation de nos encadrants puisqu'il n'y a pas de formation particulière pour les encadrants. Il y a le BAFA pour l'encadrement d'enfants et d'adolescents. Il y a un BAFA particulier pour l'accueil et l'encadrement d'enfants en situation de handicap, mais pour ce qui est des adultes, il n'y a pas de formation. Donc, les adultes handicapés sont les seules personnes qui vont finalement payer la formation des gens qui vont les encadrer pendant leur séjour. Alors, il n'y a pas de contrôle particulier, c'est-à-dire que nous, on s'impose de faire une formation, donc on fait 3 jours de formation pour nos encadrants, qu'on prend en charge parce que ça nous paraît complètement indispensable. Mais voilà, ça, c'est forcément aussi répercuté sur le coût du séjour puisque c'est encore une fois un autofinancement. Donc voilà, il n'y a pas d'aide pour des encadrants comme il peut y en avoir pour le BAFA ou autre.
Et donc l'activité de votre association, elle existe essentiellement au moment de l'hiver et de l'été pendant les congés. Est-ce qu'il y a autre chose entre ces congés qui constitue l'existence de votre association ?
Alors non, du coup, on avait commencé à faire un petit peu des loisirs ponctuels plutôt à la journée ou sur des week-ends. Mais c'est assez compliqué en termes d'organisation parce qu'on accueille aussi des gens qui viennent d'un petit peu partout en France et on va chercher tous les gens chez eux en fait au moment des départs. On accueille quand même beaucoup plus de gens des Pays de la Loire et du Maine-et-Loire. Oui. Mais on accueille des gens qui peuvent habiter en région parisienne, région centre, Bretagne, Normandie, etc. Et donc sur des week-ends, ça devient plus compliqué d'organiser sur juste des petits moments. Voilà, donc on essaye de... là, on a l'objectif de pouvoir acheter un lieu, en fait, avec l'association, qui nous permettrait justement de développer plutôt de l'activité, puisqu'on n'aurait plus besoin justement de louer un lieu à la journée ou au week-end, mais on pourrait avoir notre lieu pour développer un petit peu justement d'autres activités.
Votre lieu d'accueil actuellement, il se situe où ?
Alors là, pour le moment, on n'a pas de lieu d'accueil à proprement parler. On a juste les bureaux de l'association, voilà, qui sont eux au Pont-de-Cé, avenue de la Boire-Salée, à côté de la mairie des Pont-de-Cé. Et du coup, là, c'est vraiment le lieu qui nous sert plutôt à amener les entretiens pour l'embauche de nos encadrants. Et puis, toute la partie logistique. On est 4 salariés permanents du coup à l'année pour organiser un petit peu tout ça, le recrutement des encadrants, les inscriptions, le suivi de nos adhérents, puisque ça reste un public particulier. Donc, on a un certain nombre d'infos à avoir, des petites fiches de renseignements, etc., pour s'assurer que les gens sont bien en capacité et que nos séjours sont bien adaptés aux personnes qu'on accueille. On peut avoir des gens où on va avoir des limites d'accueil pour des gens qui vont être trop dépendants et donc du coup qui vont devoir être orientés vers d'autres organismes pour ne pas mettre en difficulté nos encadrants et surtout les vacanciers eux-mêmes qui, s'ils ne sont pas dans les bonnes conditions, vont passer forcément des mauvaises vacances.
D'accord.
Alors, on arrive au bout de l'interview, c'est dommage. Tu as donné l'adresse. Est-ce que tu peux nous donner d'autres contacts si
oui, des personnes... Oui, alors du coup, l'adresse, voilà, c'est 2 avenue de la Boire-Salée au Pont-de-Cé. Et puis ensuite, on a notre site internet. Donc, c'est www.alapl.com. Et donc, du coup, là, après, sur le site, il y a toutes les infos pour postuler. Il y a les infos pour regarder, en fait, les séjours. Alors là, pour cet été, tout est déjà complet. Mais voilà, il y a le catalogue qui permet de voir un petit peu ce qu'on propose comme séjour et les infos autour de l'association.
Ça représente juste, en dernière question, combien de bénéficiaires ?
Il y a sur l'été environ 600 personnes qui partent avec nous.
Bravo.
Bravo.
Bravo. Super.
Superbe action.
Merci beaucoup.
Merci Louis d'avoir accepté notre invitation.
On se retrouve après une pause musicale.
1, 2, 1, 2, 3.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer.
Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom.
Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et faible, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un rêve, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un rêve, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté, je suis née pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté, liberté, liberté. Je suis née pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté, pour te connaître. Liberté. Liberté.
De retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM, vous venez d'écouter le nouveau titre des Frangines, qui ont réalisé une version chantée du célèbre poème Liberté de Paul Éluard. Et c'est maintenant l'heure d'écouter la chronique de Céline qui nous parle de la situation des personnes sans-abri, où ça, eh bien, à Angers.
Bonsoir Valérie. Pour cette chronique du mois de mars, je voulais qu'on retrouve nos très vieilles habitudes, celles où j'égrenais les noms de ceux qui étaient à la rue et de ceux qui les hébergeaient. Et à Angers, comme rien ne change, les voici. Khalil reste chez Pauline et Christophe. Hugo reste chez Nathalie et ira ensuite chez Michael, qui l'invite pour 3 nuits. Youssouf ira dormir à Fondacio. Appel de l'accueil pour Aïcha, ivoirienne, née en 2008, sortie de l'hôtel par le conseil départemental. Véronique était d'accord pour l'héberger, mais elle a disparu. Elle est partie dans les rues d'Angers. Nous n'avons pas ses coordonnées. J'ai laissé des messages au PASS, mais pas de nouvelles. Peu avant 16 heures, appel. Une femme tchadienne avec 5 enfants, de 2 à 13 ans, vient d'arriver à Angers sans solution. Pas de place au 115. Nous faisons l'alerte au conseil départemental à Enfants en danger. Refus. Nous activons des jokers. Nous nous orientons vers la possibilité d'hôtel. Possibilité à l'appart hôtel rue de Rennes. 121 euros pour la nuit. C'est la seule solution. Dominique est allée rejoindre la famille qui attendait à la gare sur nos conseils. Elle l'a accompagnée en tram jusqu'à l'hôtel. La soirée d'hier nous rappelle vraiment les veilles au 115. En particulier, cette maman solo avec 5 enfants, avec son énorme valise et le petit dernier dans la poussette qui va devoir demain matin remonter dans le tram pour se rendre à France Horizon. Elle va galérer, comme les autres familles, pour aller sous la pluie jusqu'à la halte de nuit. J'ai pris le temps de noter les prénoms des enfants, adorables et calmes. Cette maman a voulu, à l'écart de ses enfants, me dire pourquoi elle est arrivée. Me dire qu'elle a eu sa fille aînée à l'âge de 15 ans, qu'elle a perdu un enfant. Elle a aujourd'hui 30 ans et a eu 6 enfants. Sa belle-famille voulait donner en mariage Farida à son cousin alors qu'elle a à peine 14 ans. C'est son mari qui a financé ce voyage sans en connaître la destination. La famille a quitté le Tchad le 27 février et a passé 3 jours à Paris avant d'arriver à Angers. Lorsque nous étions dans le tram vers l'Apart City, ce n'est pas l'Apart Hôtel qui nous fournissait les viennoiseries. Lorsque nous étions à Rouchy, le 115 a rappelé madame pour dire qu'on tentait encore de lui chercher une solution. J'ai pu parler à l'écoutante qui remercie aussi SOS Migrants d'avoir trouvé cet hôtel. Nous avons appris qu'un bénévole du Secours Populaire, tchadien, en France depuis 4 ans et à Emmaüs depuis 3 ans, a reçu une obligation à quitter le territoire. C'est lui, dont on a pu lire à plusieurs reprises dans la presse, qu'il a créé le grand jardin potager à Emmaüs. Il est plus que chef d'équipe. Il fait partie du conseil d'administration d'Emmaüs. Il a une promesse d'embauche. Bref, il coche toutes les cases, mais reçoit une obligation à quitter le territoire français. Nous avons eu une autre demande, un couple et un bébé de 4 mois, originaire de Mongolie, primo-arrivant, ils ont dormi à la gare une nuit entière. Alors que le conjoint se serait absenté pour aller acheter quelque chose à manger, madame et son bébé ont été agressés par deux hommes alcoolisés. Le lendemain, accompagné à France Horizon par une dame, puis directement conduit au CHU, où ils y ont passé toute la journée. Des jokers étaient prêts à les accueillir au cas où la famille serait sortante du CHU s'il n'y avait pas de place au 115. La famille n'a pas de téléphone. L'assistante sociale du CHU a fait une demande de prise en charge au 115, mais le 115 lui a dit que si la famille était sortante, il n'y aurait pas de place pour eux entièrement. Ils seraient séparés dans deux Algeco. Après un échange entre nous, que faire ? Dire au 115 qu'on a une solution chez des jokers après une journée traumatique, un peu de repos ferait du bien à cette famille. On décide que oui. Voilà Valérie, tu vois, finalement, à Angers, rien ne change.
Et c'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty. Je suis pas sûre que ça vous remonte trop le moral, mais c'est comme ça.
Lorsque nous en parlions le mois dernier, ce n'était pas encore gagné. Mais ça y est. La France est devenue le premier pays au monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution. Réunis en congrès à Versailles, les parlementaires français ont exprimé un consensus massif avec un vote favorable de 780 voix contre seulement 72 voix opposées. Une explosion de joie a salué l'annonce du vote devant la Tour Eiffel, lieu de rassemblement de militants féministes, et anonymes, où des inscriptions lumineuses comme « Mon corps, mon choix » ont scintillé sur le monument.
L'ONU estime avoir des raisons de croire que des viols et violences sexuelles ont été commis par le Hamas le 7 octobre, puis envers les otages à Gaza. L'ONU a aussi recueilli des témoignages de violences sexuelles envers des civils palestiniens incriminant des soldats israéliens.
En Russie, Oleg Orlov, coprésident du Centre de défense des droits humains Mémorial, a été condamné le 27 février dernier à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire pour avoir discrédité de manière répétée l'armée russe. Il est sorti de la salle d'audience menotté et escorté par un contingent d'au moins 8 agents des forces de l'ordre, puis transporté au centre de détention Kapotnia à Moscou. L'équipe juridique d'Orlov compte faire appel de cette décision. Pour rappel, Oleg Orlov est un éminent défenseur russe qui a reçu le prix Sakharov pour la liberté d'expression en 2009.
Le 6 mars, un tribunal municipal a condamné le journaliste Roman Ivanov pour dissémination délibérée de fausses informations sur les forces armées russes en raison de publications sur sa chaîne Telegram personnelle évoquant l'homicide de civils à Boutcha et d'autres crimes de guerre présumés commis par les forces russes.
Les autorités iraniennes mènent une campagne d'envergure pour faire appliquer des lois répressives relatives au port obligatoire du voile, en mettant en place une surveillance généralisée des femmes et des filles dans l'espace public et en procédant à des contrôles de police massifs ciblant les femmes qui conduisent. Des dizaines de milliers de femmes se sont fait ainsi confisquer leurs voitures de manière arbitraire. D'autres sont poursuivies et condamnées à des peines de flagellation ou de prison. Se voit infliger des amendes et se voit contrainte d'assister à des classes de moralité.
Au Mexique, 8 journalistes ont été tués au cours des 7 dernières années, alors qu'ils étaient censés bénéficier de l'aide du mécanisme mexicain de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes. Un chiffre qui souligne l'urgente nécessité de renforcer et de réformer cette institution. D'après un nouveau rapport élaboré par Amnesty International et le groupe de défense de la liberté de la presse, le Mexique est le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes. L'impunité semble la norme pour leur disparition ou leur assassinat.
Et maintenant, écoutons la chronique de l'antenne jeune d'Amnesty Angers qui va nous parler de la terrible guerre du Soudan.
Bonjour à tous. Nous sommes heureux de revenir cette semaine avec cette chronique spéciale animée par l'antenne jeune d'Amnesty Angers. Au programme, la mise en lumière d'un affrontement inquiétant pour les droits humains qui a commencé il y a 11 mois, la guerre au Soudan. Pour comprendre ce conflit, il faut comprendre ses origines et ainsi revenir en 2019. Cette année-là, le dictateur soudanais Omar el-Bashir est renversé par un coup d'état militaire et remplacé par un gouvernement civil. Peu de temps après sa mise en place, ce gouvernement est lui aussi renversé par 2 généraux, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Adnan Daglo, plus couramment appelé Emeti. Al-Burhan devient chef du gouvernement et de l'armée, tandis que Emeti prend le contrôle d'un groupe paramilitaire, les Forces de soutien rapide, FSR. Des oppositions entre les deux hommes vont apparaître, car ils ne voient pas l'avenir du pays sous le même angle et considèrent l'autre comme une menace dans leur projet. C'est pourquoi le 15 avril 2023, après plusieurs mois où les tensions ont cessé d'augmenter, l'affrontement entre l'armée conventionnelle et le FSR a réellement commencé dans les rues de Khartoum, capitale du pays, mêlant hommes, frappes aériennes et bombardements. 11 mois après le début de ces affrontements, le bilan humain est considérable et le pays fait face à un désastre humanitaire. Pour les deux hommes, les civils ne sont que des dommages collatéraux. Les hôpitaux sont bombardés, les villes pillées, les cessez-le-feu ne sont pas respectés, les aides humanitaires restent bloquées à la frontière et les civils sont les premières victimes d'un affrontement qui n'est pas le leur. Selon le Programme alimentaire mondial, 18 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë à travers le pays, ce qui pourrait conduire à la plus grande crise de la faim au monde. De plus, le Programme alimentaire mondial, qui est déjà venu en aide à 550 000 réfugiés soudanais, a été contraint récemment de réduire ses rations par insuffisance de financements internationaux. Sans oublier que depuis le début de la guerre, 8 millions de civils ont été dans l'obligation de quitter le pays, ce qui constitue la plus importante crise de déplacement de population au monde, selon l'ONU. Malgré cela, cette guerre qui menace des millions de vies, la paix et la stabilité dans toute une région, comme l'a affirmé Sidney McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, n'est que trop peu abordée dans la presse. J'aimerais terminer cette chronique en vous présentant rapidement la projection du film « Interdit aux chiens et aux Italiens ». Le film sera projeté le 20 mars dans la salle de spectacle 4 à Saint-Serge, dans le cadre du festival Cinéma et Droits Humains. L'entrée est gratuite, alors n'hésitez pas à venir nombreux.
Et voilà une belle transition, parce que c'est le temps de parler de l'agenda militant et culturel. Et cela commence maintenant avec une super exposition intitulée « Femmes ambassadrices de paix ». Elle se tient à l'espace Frédéric Mistral jusqu'au samedi 16 mars, voilà, de 8h30 à 18h.
Sensibiliser à travers le cinéma au grand combat d'aujourd'hui, c'est le pari de nos militants. Les groupes d'Amnesty International de la région Anjoumène organisent entre le 12 mars et le 18 avril un festival cinéma et droits humains. Philippe, quel est le programme ?
Venez voir le documentaire afghan le 26 mars à 20h à la Maison de la Culture et des Loisirs de Beaucouzé et découvrez un film à rebours des clichés qui les présente comme d'éternelles victimes, le récit de quatre femmes afghanes héroïques. Avec le film Les Lueurs d'Aden, le 20 mars à 20h au 400 coups, plongez-vous dans un quotidien de lutte pour subsister et garder un toit au Yémen, un pays ravagé par la guerre civile depuis bientôt 10 ans. Enfin, confrontez-vous à la question de l'intégration des migrants en France avec le film Interdit aux chiens et aux Italiens, le 2 avril à 19h, salle Le 4, à l'Université Saint-Serge.
Encore du cinéma, les 15 et 16 mars, l'association Femmes d'ici et d'ailleurs organise un festival, le Festival Égalitaire, au centre Jean Villard à Angers. Le vendredi, projection débat du film Les Croquantes. Le samedi, participation, si vous le voulez, séance de boxe thérapie, acro-yoga, spectacle de la chorale Cœur de Femme ou court-métrage Bintou.
Le collectif des Lucioles propose sa 3e édition pour 2 drag shows réunissant de nombreux et de nombreuses dragues, notamment ceux de la compagnie d'artistes La House Oulala. Rendez-vous le 15 mars de 19h à 22h et le 16 mars de 17h à 22h au 122.
8h pour la Palestine, samedi 23 mars au centre Jean Villard, entrée libre. À 17h, conférence d'Alain Grèche, Palestine état d'urgence. Et à 20h30, slam pour Gaza avec Kual et Tony Baker.
Trop bien. Et ne manquez pas le festival du film positif. Les 23 et 24 mars, salle des loisirs à Trèves-Gênes, Val-de-Loire. L'entrée est libre et il y a un espace de restauration. C'est un festival pour se faire du bien. Il y a des films, des documentaires, plein d'échanges. Et tout ce qui se passe de positif localement et un peu partout dans le monde.
Al-Kamandjeti, AFPS 49, Action Palestine et plusieurs artistes organisent une soirée conférence-débat sur le thème de Gaza et de la Palestine. Elle sera suivie d'un concert. Ce sera le mercredi 27 mars 2024 dès 18h à la salle Claude Chabrol d'Angers.
Trop de choses en mars et il est presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Louis pour sa venue. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à Amnesty.angers. Bonne soirée et à bientôt sur les ondes de Radio G.
Bonne soirée.
À bientôt.